Louis Coquelet, l'éloge de rien, dédié à personne, ou en a joint l'éloge de quelque chose. Troisième édition, peu revue, nullement corrigée et augmentée de plusieurs rien. L'éloge de rien, dédié à personne, avec une postface. Épître dédicatoire à personne. Un auteur dédie ordinairement son ouvrage ou à un grand seigneur dont il brigue la protection ou à quelque financier libéral dont il couche en joue le coffre-fort ou à une nymphe bien-aimée dont il veut s'acquérir les bonnes grâces ou enfin à un ami qu'il veut préconiser à charge de retour. Le burlesque Scarron a dédié un de ses ouvrages à une chienne et le mordant Furetière en a dédié un au bourreau. Pour moi, plus sage ou plus fou, comme il plaira au redouté lecteur de me nommer, selon le juste droit qu'il en a acquis en m'achetant, je dédie mon éloge de rien à personne. Je ne doute pas qu'une pareille dédicace ne révolte bien des gens, qui, accoutumés à n'approuver que leurs propres inventions, ont toujours des dispositions prochaines à blâmer celles des autres. Que cet auteur fantasque, diront ses censeurs pointilleux, entend mal ses intérêts, n'aurait-il pas incomparablement mieux fait de dédier son ouvrage de rien à un homme de quelque chose que d'en offrir la dédicace à personne ? Dédicace aussi infructueuse que ridicule, et dont un rien des plus secs fera toute la récompense. Il est vrai que peut-être un seigneur que j'aurais héroïcié, à tout hasard, dans mon épître dédicatoire, m'aurait régalé d'un « je vous remercie » bien articulé, et de quelque embrassade un peu vive, ou qu'une belle iris dont j'aurais vanté le mérite équivoque à la tête de mon livre, aurait pu me rendre mensonge pour mensonge et flatterie pour flatterie. Quoi qu'il en soit, pour parler franchement, suivant ma peu louable coutume, j'aime autant un rien de personne que les caresses stériles et les belles paroles d'un grand seigneur. Et de l'humeur dont m'a fait dame nature les promesses les plus flatteuses des iris et des climènes, si bien assaisonnées soient-elles, et un bon rien font à peu près pour moi la même chose. D'ailleurs, si messieurs les contrôleurs ordinaires des ouvrages des autres savaient les obligations que j'ai à personne, sans doute qu'ils ne seraient pas si choqués de ma dédicace. Enivrée de la folle vanité de me faire un nom dans la République des Lettres, j'ai quitté le tranquille séjour de la province pour venir me transplanter à Paris. Le séjour de la confusion et du désordre, veut-on savoir qui, à mon arrivée en cette ville, est venu me visiter et me faire des offres de service ? Personne. Est-on curieux d'apprendre qui m'a consolé quand j'y ai eu des chagrins ou quelque fâcheuse maladie ? Personne. Qui m'y a secouru dans mes besoins ? Personne. Qui m'y a donné sa table ou prêté de l'argent ? Personne. À qui donc ai-je plus d'obligations à votre avis qu'à personne ? Mais personne n'a pas seulement mérité mon estime et ma confiance par les endroits que l'on vient de voir. Je soutiendrai encore hardiment contre tout le monde qu'on trouve en personne tout ce qui peut former le mérite le plus complet. Qu'on me dise de grâce. Qui est-ce qui est parfaitement sobre dans l'abondance, souverainement modeste au milieu des plus grands honneurs, scrupuleusement chaste, entouré de tout ce qu'il y a de plus charmant parmi le beau sexe? Personne, répondra-t-on sans hésiter. Qui voit-on aujourd'hui favoriser les belles lettres et ceux qui les cultivent? Personne. Qui voit-on aimer à faire du bien à tout le monde, jusque même à ses ennemis? personne. Qui de nos jours est plus éloquent que Cicéron, meilleur poète que Virgile, plus savant historien que Tite Live, plus élevé qu'Horace dans ses odes, plus touchant qu'Ovide dans ses élégies, plus élégant que Phèdre dans ses fables? Personne. Qui jamais a eu plus de sagesse que Salomon, plus de force que Samson, plus de courage qu'Alexandre, plus de talent que César? Personne. En un mot, qui dans le monde est parfait de tout point? Qui est-ce qui a, ici-bas, toutes les vertus, sans mélange d'aucun défaut? Personne. Et l'on s'étonnera, après tant d'avantages, qu'on n'oserait contester à personne, sans passer pour grossier et pour un homme peu versé dans le commerce du beau monde. L'on s'étonnera, dis-je, qu'un discours sur rien soit dédié à personne. Ma dédicace, certes, a des convenances admirables avec l'ouvrage qui l'occasionne, et rien est assurément fait pour personne, comme personne semble être fait exprès pour rien. C'est donc avec grande raison que j'ai mis personne au commencement de cette épître dédicatoire, et que je la finis en déclarant authentiquement que j'ai tous les sujets du monde d'être le très humble et très obéissant serviteur de personne. L'éloge de rien. Homère, le premier des poètes grecs, a fait un poème du combat des rats et des grenouilles. Et Virgile, le prince des poètes latins, en a fait un sur un moucheron. Ovide a fait l'éloge de la puce, Lucien de la mouche, Mélenchon, Agrippa et plusieurs autres, celui de l'âne. Socrate a fait l'éloge de Busiris, fameux tyran, André Arnaud de Phalaris, autre tyran, Cardan de Néron, Platon et Carnéade de l'injustice. Étienne Guasi a loué la vie parasitique, Érasme la folie, Johannes Fabricius la gueusserie, Ulrich de Athènes la fièvre, Jérôme Fracastor l'hiver, Hélène Dolé la vieillesse, Elias Major le mensonge, Douza l'ombre. Et moi, messieurs, j'entreprends de vous faire aujourd'hui l'éloge de rien. Quelle extravagance, dira-t-on. Et qui s'est jamais avisé de faire un discours sur rien? Qu'y a-t-il donc de si blâmable dans mon entreprise, messieurs? Ne vaut-il pas mieux faire un discours sur rien que de composer de froides comédies comme Afranius, des tragédies pitoyables comme Barbarides, des opéras ennuyeux comme Crassotius, des odes prosaïques comme Dariolin, des épigrammes ordurières comme Épaphos, des vaudevilles libertins comme Horribilis, des babioles périodiques comme Faribolin, des poèmes insipides comme Garalipton, de fades éloges comme Théodiosus et Miphérémini, des brevets satiriques comme Régius, des dissertations vagues et infructueuses comme Lucius, des romans dangereux comme Patellinus. Ne vaut-il pas mieux discourir de rien que de faire des raisonnements creux sur la politique comme Navardus, que de raconter des aventures équivoques comme Turpius, que de médire éternellement de tout le monde comme Olédicus, que de faire des systèmes en l'air et vides de sens comme Vagantinus, que de parler enfin à tort et à travers de tout ce qu'on sait et qu'on ne sait pas, comme Strepitosus? Mais non seulement il vaut mieux parler de rien, préférablement à tout ce qui se dit et s'écrit par nous la plupart du temps. J'ose encore soutenir que rien est digne de toutes nos louanges par lui-même et qu'on ne doit jamais oublier rien quand il s'agit de préconiser le mérite et la vertu. Si d'abord vous faites attention à l'ancienneté de rien, quel être, si vous en acceptez l'être souverain, est plus ancien que rien? on peut même avancer sans crainte d'impiéter que rien est aussi ancien que l'être souverain lui-même. Car enfin, qu'y avait-il avant que les anges et le monde fussent créés? Rien. Qu'y a-t-il eu de toute éternité avec Dieu? Rien. Tout a commencé par rien, et rien n'a jamais eu de commencement. Si on considère l'excellence de rien, elle est admirable. Rien, aussi bien que la divinité, ne se peut définir que par lui-même. Qu'est-ce que rien? C'est rien. Comme elle, rien est immense, incommensurable, et s'étend au-delà de toute chose. Rien est immuable et indivisible. On ne saurait l'augmenter ni le diminuer. Ajouter rien à rien, cela fait toujours rien. Ôter rien de rien, il reste toujours rien. Rien ne vient de personne, et tout ce que nous voyons dans la nature vient de rien. Ce soleil si lumineux, ces astres si brillants, ces charmantes fontaines, ces prairies si riantes, ces plaines si agréablement diversifiées, ces lacs, ces mers, ces montagnes, ces mines si précieuses qu'elles cachent. Tout cela a été fait de rien. Ces viandes si succulentes que nous mangeons avec tant d'avidité, ces vins délicieux que nous buvons avec tant de contentement, ces doux fruits, ces excellentes liqueurs dont nous faisons nos délices viennent originairement de rien. Bien plus, ces princes redoutés que nous servons avec tant de respect, ces beautés enchanteresses que nous idolâtrons avec tant de complaisance, ces tendres amis que nous chérissons avec tant de cordialité, sont issus en droite ligne de rien. Que vous dirais-je davantage? Notre âme, cette glorieuse portion de la divinité qui nous distingue si avantageusement des bêtes, a été faite de rien. Rien souvent nous paraît quelque chose, et quelque chose souvent nous paraît rien. Rien se trouve partout et ne réside nulle part. Le monde a été fait autrefois de rien, et il retournera un jour à rien. Et je ne doute pas que des millions d'âmes qui font tant aujourd'hui les vaines et les orgueilleuses ne désirent extrêmement un jour d'être réduites à rien. Mais elles le désireront en vain. L'être souverainement puissant, pour les punir de leur orgueil et de leur mollesse, leur refusera avec justice ce qui, par rapport au funeste état où elles seront plongées, ferait pour elles le plus grand désavantage. Rien est également excellent en vers et en prose, en grec et en latin, en français et en anglais, en quelque langue enfin que ce soit. Qu'y a-t-il de plus beau, par exemple, que la poésie grecque, que l'Iliade d'Homère? Rien, assurément, quoi qu'en disent nos délicats modernes. Et dans la poésie latine, que les éclogues et les géorgiques de Virgile? Rien. Qu'y a-t-il de plus éloquent en prose que les harangues de Démosthène et les oraisons de Cicéron? Rien. Qu'avons-nous de mieux écrit en français que les lettres de Madame de Sévigné, les fables de La Fontaine et le Télémaque de Monsieur Fénelon? Rien. Qu'avons-nous de plus plaisant en espagnol que le Don Quichotte de Cervantes? Rien. Qu'avons-nous de plus sublime en anglais que le Paradis perdu de Milton? Rien. Qu'avons-nous en France de meilleur, en fait, de tragédie que Corneille et Racine? Rien. En fait de comédie que Molière et Régnard? Rien. En fait de satire que Régnier et Despreaux? Rien. En fait d'histoire que Daniel et Mézeray? Rien. En fait de roman que Zaïde, la princesse de Clèves et les œuvres de Madame de Villedieu? Rien. Qu'avons-nous en fait d'astronomie de plus clair et de plus à portée de tout le monde que les soirs de Fontenelle? Rien. Parcourez toutes les sciences, tous les arts, tous les emplois, tout ce qu'il y a de plus rare dans ce vaste univers. Après un mûr examen, vous trouverez que tout y est moins que rien. et qu'hormis une seule chose, tout doit être compté pour rien. Il faut que rien, après tout, soit quelque chose de bien excellent, puisqu'un des plus célèbres auteurs du dernier siècle a mis rien immédiatement au-dessus d'un livre qui fait l'amusement de 1000 gens et l'érudition principale des beaux esprits de la province. Le fameux duc de Valentinois, César de Borgia, ne mettait pas de milieu entre être César ou rien. Ou César ou rien, disait-il. Aut César, aut nihil. C'était sa devise. C'est que les grands hommes veulent toujours avoir tout ou rien. Toutes les choses de ce monde s'en vont et se réduisent à rien. Partout, ici-bas, on se repaît et on s'entête de rien. C'est pour rien qu'on dispute, qu'on plaide, qu'on se fait la guerre, qu'on se tue. Les hommes ne remportent de leurs inquiétudes et de leurs travaux sur la terre que la honte d'avoir été les dupes de rien. Il est le commencement, le progrès et la conclusion de toutes nos vanités. Il est toujours constant, toujours uniforme, toujours lui-même. Il remplit l'esprit et le cœur sans les remplir et les occupe sans les occuper. La stérilité est féconde et la fécondité stérile. Rien est un grand magicien qui se fait voir aux aveugles et entendre aux sourds. Car que voient les aveugles et qu'entendent les sourds? Rien. Que disent les muets et que tentent ceux qui n'ont point d'odorat? Rien. Un rien a souvent donné lieu aux plus grandes entreprises et les plus grands projets ont souvent abouti à rien. D'illustres assemblées ont souvent été convoquées pour rien et se sont terminées à rien. Combien de fois a-t-on vu de grands hommes privés de leurs emplois pour rien et remplacés par d'autres qui avaient moins de mérite que rien? Combien de contestations tous les jours et de querelles sur rien? L'homme de ville, l'homme d'État, l'homme de guerre, les philosophes même font souvent grand bruit pour rien. Les courtisans ne se donnent-ils pas sans cesse bien du mouvement pour rien? Les ambitieux ne se tourmentent-ils pas et ne tourmentent-ils pas éternellement les autres pour rien? Les envieux aperçoivent des riens dans leurs voisins et ne voient pas une poutre qui leur crève les yeux. Et quel vacarme la plupart du temps un avare ne fait-il pas dans son domestique pour un rien? Toute cette agitation du monde, dit un auteur noble vénitien, tout ce flux et reflux des peuples dans les villes, toute cette foule d'hommes, de femmes, d'enfants, de laquais qui courent comme des fous par les rues, tous ces gens qui se poussent, qui se battent, qui s'injurient, qui se saluent, qui s'embrassent, les carrosses qui roulent, les fardeaux qu'on porte, qu'on tire, qu'on traîne, les maisons qui tombent et qu'on relève, les palais qu'on bâtit, le bruit des armes, les cris et les clameurs de la populace et mille autres choses qui sautent aux yeux sont les effets et les jeux de rien. Le pouvoir de rien est extraordinaire. Un rien nous fait pleurer, un rien nous fait rire, un rien nous afflige, un rien nous console, un rien nous embarrasse, un rien nous fait plaisir. Il ne faut qu'un rien pour remonter un pauvre homme, il ne faut qu'un rien pour le renverser. Un rien brouille un ami avec son ami, un amant avec sa maîtresse, une femme avec son mari, et l'homme, souvent, avec lui-même. Un rien fait bien espérer d'un malade, et un rien rend innocent celui qu'on croyait le plus coupable. Dominer sur une petite portion de notre terre est moins que rien par rapport au vaste espace de l'univers. De combien de désirs, cependant, cette domination n'est-elle pas l'objet? La crainte du coquillage est moins que rien. Quelle discorde, néanmoins, cette frivole crainte n'excite-t-elle point dans la plupart des familles? Les plus grands honneurs de la terre n'ont qu'un éclat de rien. Les richesses et les plaisirs ne sont pas plus solides que rien. La vie même la plus longue n'a qu'une durée de rien. À quoi servent la musique, la danse, la peinture, la poésie et la plupart des sciences humaines. À rien, en vérité. Hors la science du salut, toutes les autres sont moins que rien. À quoi servent les titres, les rangs, les distinctions, la parure, le fard et tous les ornements extérieurs? À rien. Songeons seulement à orner notre âme de toutes les vertus, si cela se peut, et comptons tout le reste pour rien. Dans la cour des princes, on compte pour rien la franchise, la candeur et la bonne foi. Dans la plupart des commerces du monde, jusque dans les mariages, le cœur, la probité, les sentiments, la naissance, ne sont-ils pas comptés aujourd'hui pour rien? Pour s'assurer une vie tranquille, qui est le seul bien estimable dans le monde, il faut compter pour rien tout ce qu'on n'a pas, dit un de nos meilleurs poètes. Dans un lieu du bruit retiré, où pour peu qu'on soit modéré, on peut trouver que tout abonde, sans amour, sans ambition, exempt de toute passion, je jouis d'une paix profonde, et pour m'assurer le seul bien que l'on doit estimer au monde, tout ce que je n'ai pas, je le compte pour rien. Un autre auteur a dit dans le même sens. Le sage écoute tout, s'explique en peu de mots, il interroge et répond à propos, plaît toujours sans penser à plaire, dans ses moindres discours fait voir son jugement, et c'est au juste le moment qu'il doit ou parler ou se taire, devant un plus sage que lui, rarement il ouvre la bouche. Il n'est point curieux des affaires d'autrui, et ce qui le regarde est tout ce qui le touche. Jamais à s'affliger, il n'est ingénieux. Il s'accommode au temps, aux personnes, aux lieux, ne s'alarme jamais d'une chose incertaine. Il court par sa prudence au-devant du danger, et souffre sans chagrin, sans murmure, sans peine, ce qu'il ne peut ni rompre ni changer. Le repos de l'esprit est tout ce qu'il souhaite, et s'il n'a pas beaucoup de bien, du peu qu'il a, son âme est satisfaite, et tout ce qu'il n'a pas, il le compte pour rien. On dit que tout ce qui est précieux coûte beaucoup à acquérir. Qu'y a-t-il en ce cas de plus précieux que rien? Puisqu'on n'acquiert rien qu'avec peine, puisqu'on n'obtient rien qu'après bien des sollicitations, puisqu'on n'apprend rien qu'à force d'application et d'études, puisqu'on ne fait rien à fond dans quelque science que ce soit, qu'après bien des recherches et des spéculations, puisqu'enfin le ciel et la terre n'accordent rien aux pauvres mortels qu'à force de prière et de travail. Notre bonheur dépend souvent de rien, car enfin, que faut-il désirer pour être heureux? Rien. Il faut réputer pour rien les dignités et les grandeurs. Vains lauriers, vains honneurs, sortez de ma mémoire. Que mon aimable iris soit mon unique gloire. Puissé-je sans éclat, loin des fameux dangers, sous ces arbres fleuris, sous ces verts orangés, de myrtes amoureux, la tête couronnée, passer comme un moment la plus longue journée, de mon aimable iris, entendre les soupirs, auprès de mon iris, borner tous mes désirs, vivre avec mon iris dans une paix profonde et réputer pour rien tout le reste du monde. Aussi, est-ce le comble de la sagesse de regarder comme rien tout ce qu'on estime et qu'on recherche avec le plus d'ardeur ici-bas, comme le philosophe Bias qui jeta dans la mer tout son or et tout son argent pour pouvoir contempler avec moins de distraction les choses célestes. Et que croyez-vous qu'eut ce grand homme quand il disait à ses amis qu'il portait toutes les richesses avec soi? Omnia mecum porto. Rien, certes, et avec ce rien, il était l'homme du monde le plus tranquille et le plus content. Heureuse, dit un poète que j'ai déjà cité, heureuse une bergère aimable qui n'a pour couvrir son beau corps qu'une étoffe à peine capable d'en cacher aux yeux les trésors. Pauvre de tous les biens dont la fortune ordonne, mais riche de tous ceux que la nature donne, elle a tout en possédant rien, nul vain désir ne la tourmente. Et sans s'apercevoir qu'elle manque de bien, elle vit pauvre, mécontente, des dons de la terre et du ciel. Elle entretient les dons de la sage nature, elle vit de lait et de miel. Elle se rafraîchit et se lave d'eau pure, et la source qui sert à la désaltérer la conseille au beau jour de fête, quand un chapeau de fleurs voulant parer sa tête, au lever du soleil, elle s'y va mirer. Qu'il tonne, qu'il grêle, qu'il vente, elle n'y prend nul intérêt. Tout l'accommode et rien ne lui déplaît, elle vit pauvre, mais contente. Ce même auteur a dit que c'était une faiblesse et une simplicité de ne jamais accorder rien à ses désirs. À ses goûts se laisser guider, et pour ses goûts tout hasarder. Cet emportement, cette ivresse, avec ses goûts s'accommoder. Et quand il faut leur commander, cette habileté, ces sagesses, contre ses goûts, toujours plaider, sans jamais rien leur accorder, ses simplicités, ses faiblesses. Avec ses goûts, être d'accord, et ne pouvoir les satisfaire, c'est un étrange et triste sort. N'en avoir plus, c'est la misère. Il vaudrait autant être mort. Mais si ses simplicités et faiblesses, selon ce poète, de passer sa vie sans accorder rien à ses inclinations, ses forces, ses grandeurs d'âme, selon moi, de servir ses amis et de leur faire plaisir dans toutes les occasions sans leur demander rien. Et comme il est certain qu'il n'y a pas de gens que nous fuyons avec plus de précaution que ceux qui nous demandent sans cesse quelque chose, il n'y a personne, au contraire, que nous voyons plus volontiers que ceux qui nous flattent, qui nous louent, qui nous amusent sans nous demander rien. Il n'y a pas de service qui plaise plus à toutes sortes de personnes, même au grand Seigneur, que ceux qu'on leur rend sans en exiger rien. Il n'y a pas de passion qui flatte plus une belle âme que celle qu'on témoigne constamment, sans paraître vouloir obliger la personne aimée à promettre et à accorder rien qu'autant qu'elle le voudra bien et que cela lui fera plaisir. C'est que presque tous les hommes aiment naturellement à être servis et obéis et n'aiment pas beaucoup à donner rien. C'est que personne ne veut se dessaisir de rien. C'est que le possesseur de rien jouit d'un bonheur qui n'est sujet ni à l'envie ni à la médisance. C'est que le possesseur de rien est exempt de mille craintes et libre de beaucoup de soins et d'inquiétudes. Le possesseur de rien n'appréhende ni les taxes, ni les impôts, ni les recherches des huissiers, ni les poursuites des procureurs, ni l'avidité des greffiers. Il ne craint pas que le feu prenne à ses granges, ou que la tempête ravage ses moissons, ou que les eaux inondent ses prairies. Il ne court pas risque qu'un héritier impatient lui abrège par le poison ou autrement une vie qui n'est déjà que trop courte, ou que d'infâmes brigands se mettent en embuscade pour le dévaliser. Il va hardiment, de nuit comme de jour, dans les forêts les moins fréquentées, comme dans les assemblées où il y a le plus de presse. Le possesseur de rien a avec lui la sauvegarde du roi, dit un auteur qui vivait il y a plus d'un siècle. De là le proverbe latin « Quand habite vacuus, coram latrone viator ». À quoi revient fort cette épigramme française d'un de nos poètes? Chez un fils d'Apollon, dépourvu de finances et meublé suivant l'ordonnance, un voleur s'étant introduit, le poète en riant l'aperçut et lui dit « Ta peine est inutile et ton erreur extrême, qui vient voler chez moi, ne s'adresse pas bien. » Qui pourrais-tu trouver de nuit lorsque moi-même, en plein midi, j'y trouve rien? On ne saurait donc disconvenir que les possesseurs de rien, comme font tous les peuples que nous appelons sauvages, et qui le sont en effet bien moins que nous, ne soient sans contredit les hommes les plus tranquilles de l'univers. De même que ceux qui vivent contents de rien en sont les plus riches et les plus heureux. Qui vit content de rien possède toutes choses.
Et comme a dit La Fontaine dans la fable de Philémon et de Baucis, ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux. Ces deux divinités n'accordent à nos voeux que des biens peu certains, qu'un plaisir peu tranquille. Des soucis dévorants, c'est l'éternel asile, véritable vautour que le fils de Japé représente enchaîné sur son triste sommet. L'humble toit est exempt d'un tribut si funeste. Le sage y vit en paix et méprise le reste. Content de ses douceurs, errant parmi les bois, il regarde à ses pieds les favoris des rois. Il lit au front de ceux qu'un vain luxe environne, que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne. Approche-t-il du but? Quitte-t-il ce séjour? Rien ne trouble la fin, c'est le soir d'un beau jour. Mais si ceux qui vivent contents de rien sont les plus riches et les plus heureux des hommes, on répute avec raison pour les plus habiles ceux qui ont le rare talent de pouvoir subsister de rien, de pouvoir figurer avec rien, comme font tant de chevaliers d'industrie dont Paris fourmille. Pour les plus braves, ceux qui ne s'étonnent et ne s'effraient jamais de rien. Pour les plus sages, ceux qui ne s'affligent ni ne s'abattent jamais de rien. Les stoïciens les comparaient à Jupiter même. Pour les plus aimables, ceux qui ne se fâchent jamais de rien. Pour les plus complaisants et les plus polis, ceux qui ne blâment jamais rien. Et pour les plus téméraires, ceux qui n'ont plus rien, parce que suivant un de nos poètes, lorsqu'on n'a plus rien, il faut tout hasarder. Et comme ceux qui ne perdent jamais rien passent pour être extrêmement heureux, témoin ce tyran de Samos, si célèbre dans l'histoire par le bonheur continuel qui l'accompagnait partout. De même, ceux qui n'ont plus rien sont fort malheureux et doivent hasarder beaucoup pour se tirer de la funeste situation où ils sont réduits. Quoi qu'ils soient fort à plaindre, ceux-là ne le sont pas moins, à mon avis, qui ne sont plus bons à rien, qui ne voient plus rien, qui n'entendent plus rien, qui ne tentent et n'aiment plus rien, qui, enfin, n'espèrent plus rien. Leur sort est sans doute le comble de la misère et nous prouve d'une manière admirable combien il est difficile de se passer de rien et que rien ne fut jamais inutile sur la terre. Ce qui est confirmé par ce fameux axiome de philosophie. Deus et natura nihil facium sustra. Dieu et la nature ne font jamais rien en vain. J'ajouterai à tout ce que je vous ai déjà dit sur rien, messieurs, que le meilleur pays de la terre serait celui où l'on vivrait pour rien, où l'on mangerait pour rien de fines perdrix et de bonnes fricassées de poulet, où l'on boirait pour rien des vins meilleurs que les plus délicats vins de Bourgogne et de Champagne, et que nous regarderions comme un homme divin celui qui nous donnerait une belle maison ou une bonne terre pour rien. J'ajouterai encore que la plupart des poètes sont des grands diseurs de rien, que ce qui fait la plupart du temps le mérite de nos orateurs, ce sont des riens brillants enchâssés dans de grandes paroles et étalés avec pompe, que mille tendres riens sont l'occupation de presque tous ceux qui aiment, qu'on amuse quelquefois les plus grands hommes avec des riens, que la plupart de nos conversations sont pleines de riens, et que ce sont ordinairement ces conversations pleines de petits riens agréables qui réjouissent et divertissent le plus. Que la plus grande partie des hommes s'occupe de rien et s'étudie à rien. Que tout le fruit que nous retirons de nos veilles et de toutes nos études est moins que rien, au sentiment même de Socrate. Car ce grand philosophe qui lut, médita, étudia toute sa vie et qui fut jugé le plus sage des mortels par l'oracle d'Apollon, que savait-il selon son propre aveu? Rien. Hoc unam sio, quod nihil sio. Je ne fais qu'une chose, disait-il, qui est que je ne fais rien. J'ajouterai encore quelque chose de plus fort, c'est que rien est Dieu et diable. Il est le Dieu des esprits forts et le diable de ceux qui n'ont point d'argent, suivant cet épigramme d'un ancien poète français. Un charlatan disait en plein marché qu'il montrerait le diable à tout le monde. si n'ayant eu, tant fut-il empêché, qui ne construit pour voir l'esprit immonde, lors une bourse assez large et profonde, il leur déploie et leur dit « Gens de bien, ouvrez vos yeux, voyez, y a-t-il rien ?»«
Non, » dit quelqu'un de plus près regardant, « et c'est, dit-il, le diable, oyez bien, ouvrir la bourse et y voir rien dedans. »
Pour en finir enfin en peu de mots, l'éloge de rien, répondez-moi, messieurs, je vous prie, qu'y a-t-il au monde de plus précieux que l'or, l'argent, les perles et les pierreries ?
Rien, assurément, me direz-vous.
Qu'y a-t-il de plus estimable que la vertu ?
Rien.
De plus aimable que le vrai mérite ?
Rien.
Qu'y a-t-il sur la terre, au-dessus de la royauté, et dans le ciel, au-dessus de la divinité ?
Rien.
Si après des prérogatives si distinguées, je ne finissais pas ici mon éloge de rien, on aurait raison de me blâmer, et je pêcherais moi-même contre une maxime que j'ai toujours fort approuvée, et qui était la maxime favorite d'un des sept sages de la Grèce. Rien de trop, ne quid nimis, maxime qui, si elle était exactement suivie, nous épargnerait souvent de grands ridicules et beaucoup d'inconvénients, puisque presque tous nos maux viennent de l'intempérance, je veux dire de ne savoir modérer ni notre langue, ni nos appétits divers. De tous les animaux, l'homme a le plus de pente à se porter dedans l'excès. Il faudrait faire le procès aux petits comme aux grands, il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci, rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on n'observe point. Pour ne point paraître violée, une maxime qui vient si bien à la matière que je traite, dispensez-moi, messieurs, de m'étendre davantage sur rien. Je craindrai, malgré le mérite de mon sujet, de vous ennuyer en vous entretenant plus longtemps de rien. Si vous recevez favorablement ce rien que j'ai l'honneur de vous présenter et qui n'est qu'ébauché, je m'engage à vous l'offrir de nouveau dans quelque temps, revu, corrigé et augmenté de plusieurs autres riens qui ne contribueront pas peu, j'en suis sûr, à vous le rendre beaucoup plus agréable. Permettez-moi seulement, en finissant, de vous faire part d'une énigme sur rien dont je voudrais connaître l'auteur pour lui en faire l'honneur qui lui est dû. Lecteur, je suis encore un être. Si pourtant tu veux me connaître, je suis sous toi, je suis dessus. Je suis à peine imaginable, dans la bourse je suis un diable, et quand je ne suis plus. Je suis le grand coffre du monde, ma nature fut si féconde que tout fut engendré de moi. Je suis le vaste inaccessible, je suis le point indivisible, et le bien d'un gueux comme toi, ce qu'a fait un larron qu'on juge, ce que respecta le déluge, ce qui sert aux dieux de soutien, ce qu'en record ne saurait être, ce qu'on fait quand on ne fait rien, c'est, lecteur, mon nom et mon être. Fin de l'éloge de rien.